les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Édité en 1926, Le soleil se lève aussi fut publié chez Gallimard dans la traduction de Maurice Edgar Coindreau en 1933. Dans la préface qu'il donnait à cette édition française, Jean Prévost écrivait ceci. Ce roman, dont les héros, y compris la femme, boivent et sont ivres à presque tous les chapitres, ce roman, dont presque toutes les descriptions offrent les voiles de l'ébriété agréable ou les terribles feux tournants de l'ivresse emportée, ne le prenez pas comme le récit de vacances de quelques Américains en France et en Espagne, ni comme un livre pittoresque. Ce narrateur, si bref et si désinvolte lorsqu'il parle de lui, et qui raconte à mots couverts un accident de guerre dont il jure à tous ne pas se soucier, ne le prenez pas au mot un instant. Le ton dégagé, avec lequel il parle de cette femme et de ses amants, écoutez-le avec plus de soin et devinez enfin ce qu'il cache. Ce que peint cette voix indifférente et de temps en temps éraillée, c'est l'enfer. Dans le Paris des années 20 et au fait de la Seine Fermine de Pampelune, Jack Barnes, le vétéran de la Grande Guerre amputé à vie de sa virilité, Jack Barnes, le narrateur du roman, et ses amis Brett, Robert Cohn, Mike Campbell, Bill Gorton, on les retrouvait en 1957 sur les ondes de France 4 Haute Fidélité par la voix de Michel Bouquet qui donnait une lecture, partielle et en trois parties, du Soleil se lève aussi. Nous écoutons ici la première, constituée des cinq premiers chapitres du livre. Lecture du soir, Le Soleil se lève aussi, lue par Michel Bouquet, première des trois parties, diffusée la première fois le 30 septembre 1957 sur France 4 Haute Fidélité.
Il fut un temps où Robert Cohn était champion de boxe poids moyen à l'université de Princeton. N'allez pas croire que je me laisse impressionner par un titre de boxe, mais pour Cohn, la valeur en était énorme. Il n'aimait pas du tout la boxe. En fait, il la détestait. Mais il l'avait apprise péniblement et à fond pour contrebalancer le sentiment d'infériorité et de timidité qu'il ressentait en se voyant traité comme un juif à Princeton. Il éprouvait une sorte d'intime réconfort à l'idée qu'il pourrait descendre tous ceux qui le traiteraient avec impertinence, bien que, étant très timide et foncièrement bon garçon, il n'eût jamais boxé qu'au gymnase. C'était l'élève le plus brillant de Spider Kelly. Spider Kelly enseignait à tous ces jeunes gentlemen, qu'ils pesassent 500 ou 205 livres, à boxer comme des poids-plumes. Cette méthode semblait convenir à Cohn. Il était vraiment très rapide. Il était si bon que Spider ne tarda pas à le faire se mesurer avec des gens trop forts pour lui. Son nez en fut aplati à jamais. Et cela contribua à augmenter le dégoût de Cohn pour la boxe. Il n'en retira pas moins une espèce de satisfaction assez étrange, et à coup sûr, son nez s'en trouva embelli. Pendant sa dernière année à Princeton, il lut trop, et se mit à porter des lunettes. Je n'ai jamais rencontré personne de sa promotion qui se souvint de lui. On ne se rappelait même plus qu'il avait été champion de boxe poids moyen. Je me méfie toujours des gens francs et simples, surtout quand leurs histoires tiennent debout. Et j'ai toujours soupçonné que Robert Cohn n'avait peut-être jamais été champion de boxe poids moyen, que c'était peut-être un cheval qui lui avait marché sur la figure, ou que sa mère avait peut-être eu peur, ou qu'elle avait vu quelque chose, ou que peut-être, dans son enfance, il s'était heurté quelque part. Mais finalement, quelqu'un vérifia l'histoire de Spider Kelly. Spider Kelly non seulement se rappelait Cohn, mais il s'était souvent demandé ce qu'il était devenu. Par son père, Robert Cohn appartenait à une des plus riches familles juives de New York et par sa mère à une des plus vieilles. À l'école militaire où il avait préparé ses examens d'entrée à Princeton, tout en s'acquittant fort bien de son rôle de trois quarts aile dans l'équipe de football, personne ne lui avait rappelé la race dont il était issu. Personne ne lui avait jamais fait sentir qu'il était juif et par suite différent des autres, jusqu'au jour où il entra à Princeton. C'était un gentil garçon, cordial et très timide, et il en conclut de l'amertume. Il réagit en boxant, et il sortit de Princeton avec le sentiment pénible de ce qu'il était, et un nez aplati. Et il se laissa épouser par la première jeune fille qui le traita gentiment. Il resta marié 5 ans, eut 3 enfants, perdit la majeure partie des 50 000 $ que son père lui avait laissés, le reliquat des biens étant allé à sa mère, acquit une dureté assez déplaisante par suite des tristesses de sa vie conjugale avec une femme riche. Et juste au moment où il avait décidé de quitter cette femme, c'est elle qui s'était enfuie avec un miniaturiste. Comme il y avait déjà bien des mois qu'il songeait à abandonner sa femme, mais qu'il ne l'avait jamais fait, trouvant trop cruel de la priver de sa compagnie, son départ lui fut une surprise des plus salutaires. Le divorce fut prononcé et Robert Cohn partit pour la Californie. Il y tomba au milieu d'un groupe de littérateurs et, comme il avait encore un peu des 50 000 $, il ne tarda pas à subventionner une revue d'art. La revue commença à paraître à Carmel, en Californie, et finit à Provincetown, dans l'état de Massachusetts. À cette époque, Cohn, qui avait été considéré purement comme un ange et dont le nom figurait en première page simplement comme membre du comité consultatif, était devenu seul et unique rédacteur. L'argent était à lui et il découvrit qu'il aimait l'autorité que confère le titre de rédacteur. Il fut tout triste le jour où, le magazine étant devenu trop coûteux, il lui fallut y renoncer. À ce moment-là, cependant, il y avait d'autres sujets de préoccupation. Il s'était laissé accaparer par une dame qui, grâce au magazine, comptait bien arriver à la gloire. Elle était fort énergique, et Cohn n'avait jamais manqué une occasion de se laisser accaparer. De plus, il était sûr qu'il en était amoureux. Quand la dame s'aperçut que le magazine n'irait pas bien loin, elle en voulut un peu à Cohn. Et elle pensa que mieux valait profiter de ce qui restait, tant qu'il y avait quelque chose dont on put profiter. Elle insista donc pour qu'ils allassent en Europe où Cohn pourrait écrire. Ils allèrent en Europe où la dame avait été élevée et ils y restèrent 3 ans. Pendant ces 3 années, la première passée en voyage, les 2 autres à Paris, Robert Cohn eut 2 amis, Bladox et moi. Bladox était son ami littéraire, j'étais son ami de tennis. La dame à laquelle il appartenait, elle s'appelait Frances, s'aperçut à la fin de la 2e année que ses charmes diminuaient. Et son attitude envers Robert passa d'une possession nonchalante mêlée d'exploitation à la ferme résolution de se faire épouser. Cependant, la mère de Robert faisait à son fils une pension de $300 par mois. Pendant 2 ans et demi, je ne crois pas que Robert Cohn ait jamais levé les yeux sur une autre femme. Il était assez heureux, sauf que, comme bien des gens qui vivent en Europe, il aurait préféré vivre en Amérique, et il avait découvert l'art d'écrire. Il écrivit un roman. Et à vrai dire, ce roman n'était pas aussi mauvais que les critiques le prétendirent plus tard. Néanmoins, ce n'était pas un bon roman. Il lut beaucoup de livres, joua au bridge, joua au tennis, et boxa dans un gymnase de quartier. Je remarquai pour la première fois l'attitude de la dame à son égard un soir où nous avions dîné tous les 3 ensemble. Nous avions dîné au restaurant L'Avenue, et nous étions ensuite allés prendre le café au café de Versailles. Nous avions pris plusieurs fines après le café, et j'annonçai mon intention de partir. Cohn avait parlé d'aller passer la fin de la semaine quelque part, tous les deux. Il voulait quitter la ville et faire une grande randonnée à pied. Je suggérais d'aller en avion jusqu'à Strasbourg et de monter ensuite à pied à Saint-Odile ou à quelque autre site d'Alsace. « Je connais une femme à Strasbourg qui pourra nous faire visiter la ville, » dis-je. Quelqu'un me décocha un coup de pied sous la table. Je crus que c'était par hasard et je continuai. Voilà 2 ans qu'elle est là-bas et elle connaît tout ce qu'il y a à voir dans la ville. C'est une femme épatante. Je reçus un nouveau coup de pied sous la table. Et levant les yeux, je vis Frances, la dame de Robert, le menton en l'air, le visage dur. Et puis après tout, dis-je, pourquoi aller à Strasbourg? Nous pourrions tout aussi bien aller à Bruges ou dans les Ardennes. Cohn parut soulagé. Je ne reçus pas de coup de pied. Je souhaitai le bonsoir et partis. Cohn dit qu'il voulait aller acheter un journal et qu'il allait m'accompagner jusqu'au coin de la rue. « Bon Dieu, dit-il, pourquoi as-tu parlé de cette femme de Strasbourg? Tu ne voyais donc pas Frances ?»« Non, je n'avais pas idée. »« Qu'est-ce que ça peut bien foutre à Frances que je connaisse une Américaine à Strasbourg ?»« Oh, peu importe, n'importe quelle femme. »« Je ne pourrais pas y aller, voilà tout. »« Dis donc pas de bêtises. »« Tu ne connais pas Frances ?» Une femme, quelle qu'elle soit. Tu n'as pas vu la tête qu'elle faisait. Eh bien, dis-je, on ira à Senlis. Te fâche pas. Je ne me fâche pas, Senlis est très bien. Nous pourrons descendre au Grand Cerf. Nous nous promènerons dans les bois et puis nous rentrerons tranquillement chez nous. Bon, ça me va. Alors, à demain au tennis, dis-je. « Bonne nuit, Jack, » dit-il. Et il se dirigea vers le café. « Tu as oublié de prendre ton journal, » dis-je. Oh, « C'est vrai. » Puis il m'accompagna jusqu'au kiosque, au coin de la rue. « Tu n'es pas fâché contre moi, Jack ?» Il se retourna le journal à la main. « Mais non, je n'ai aucune raison. » « À demain au tennis, » dit-il. Je le regardais sans retourner au café, le journal à la main. Il m'était plutôt sympathique. Mais évidemment, la vie avec elle n'était pas toujours rose. Cet hiver-là, Robert Cohn partit pour l'Amérique avec son roman qui fut accepté par un assez bon éditeur. Ce voyage occasionna, paraît-il, une scène terrible, et c'est alors, je crois, que Francis le perdit. Car plusieurs femmes furent gentilles avec lui à New York, et quand il revint, il n'était plus le même. Il était plus enthousiaste que jamais sur l'Amérique, et il n'était plus si simple, et il n'était plus si gentil. Son éditeur avait un peu trop loué son roman, et ça lui était monté à la tête. Puis plusieurs femmes avaient fait de leur mieux pour lui être agréable, et ses horizons s'en étaient trouvés changés. Pendant 4 ans, il avait strictement borné ses horizons à sa femme. Pendant 3 ans, ou près de 3 ans, il n'avait connu que Frances. Je suis sûr que dans sa vie, il n'avait jamais connu l'amour. Il s'était marié au sortir de la triste existence qu'il avait eue à l'université, et Frances l'avait pris au sortir de sa découverte qu'il n'avait pas été pour sa première femme. Il n'était pas encore amoureux, mais il se rendait compte qu'il exerçait une certaine attraction sur les femmes, et que le fait qu'une femme s'attachait à lui et désirait vivre avec lui n'était pas simplement un miracle divin. Sa transformation fut telle qu'il n'était plus si agréable à fréquenter. De plus, ayant joué au bridge à des tarifs trop élevés pour lui chez ses amis de New York, qui jouaient gros jeux, il avait eu de la chance et avait gagné plusieurs centaines de dollars. Cela l'avait rendu assez fat en matière de bridge, et il disait souvent que, en cas de nécessité, un homme pouvait toujours gagner sa vie en jouant au bridge. Il y avait encore autre chose. Il avait lu W.H. Hudson. On pourrait croire que c'est une occupation bien innocente, mais Cohn avait lu et relu The Purple Land. Or, The Purple Land est un livre désastreux si on le lit trop tard. On y voit les magnifiques et fictives aventures amoureuses d'un parfait gentleman anglais dans un pays intensément romantique dont le décor est peint au mieux. Qui prend ce livre à 34 ans comme un guide de la vie, court à peu près les mêmes dangers que celui qui ferait au même âge son entrée dans Wall Street, frais et moulu d'un couvent français et pourvu de la série complète des livres les plus pratiques de H. Alger. Cohn, à ce que je crois, avait pris chaque mot de The Purple Land au pied de la lettre, comme s'il se fût agi d'un rapport de R.G. Dunn. Il ne faudrait cependant pas vous méprendre. Il faisait bien quelques réserves, mais pris en bloc. Le livre lui paraissait sensé. Il n'en fallait pas plus pour le déchaîner. Je ne compris à quel point il était déchaîné que le jour où il se présenta à mon bureau. « Hello, Robert, » dis-je. « Tu viens me distraire ?» « Aimerais-tu aller en Amérique du Sud, Jack ?» dit-il. « Non. »« Pourquoi ça ?»« Je ne sais pas, ça ne m'a jamais rien dit, trop cher. »« Et puis, tu peux voir tous les Sud-Américains que tu veux à Paris. »« Ce ne sont pas les vrais Sud-Américains. »« Ils me semblent rudement vrais à moi. » J'avais à envoyer par le train spécial d'un bateau mon courrier hebdomadaire de nouvelles, et je n'en avais écrit que la moitié. « As-tu appris quelques scandales ?» demandai-je. « Non. Pas de divorce parmi tes autres relations ?»« Non. Écoute, Jack, si je me chargeais de toutes les dépenses, m'accompagnerais-tu en Amérique du Sud ?»« Ben, pourquoi moi ? Ben, tu sais l'espagnol. Et ce serait plus amusant à deux. »« Non, dis-je, je me plais ici, et l'été je vais en Espagne. »« Toute ma vie, j'ai rêvé d'un voyage comme ça, » dit Cohn. Il s'assit. Je deviendrai vieux avant d'avoir pu le faire. Ne dis donc pas de bêtises, dis-je. Tu peux aller partout où tu veux. Tu as de l'argent plein tes poches. Je sais. Mais je ne peux pas me mettre en route. Ne t'en fais pas, dis-je. En somme, tous les pays, ça ressemble au cinéma. Mais j'avais pitié de lui. Il était salement touché. Je ne peux pas m'habituer à cette idée que ma vie s'écoule si vite et qu'en réalité, je ne la vis pas. Personne ne vit complètement sa vie, sauf les toréadors. Bon, les toréadors ne m'intéressent pas, c'est une vie anormale. Je veux aller à la campagne, dans l'Amérique du Sud. Nous pourrions faire un voyage épatant. Tu n'as jamais songé à aller chasser dans les possessions anglaises d'Afrique ? Oh non, je n'aimerais pas ça. C'est un endroit où j'irai bien avec toi. Non, non, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que tu n'as jamais lu de livre là-dessus. Tu devrais lire un de ces livres plein d'histoires d'amour avec de belles princesses d'un noir luisant. Je veux aller en Amérique du Sud. Il avait cette caractéristique bien juive d'être très entêté. Descendons prendre quelque chose. Tu ne travailles pas ? Non, dis-je. Nous descendîmes au café du rez-de-chaussée. J'avais découvert qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour se débarrasser des amis. Après avoir pris un verre, vous n'aviez qu'à dire « Ah, maintenant, il faut que je remonte, j'ai quelques câbles à envoyer » et le tour était joué. Il est très important d'avoir ainsi d'élégantes échappatoires dans le métier de journaliste, où un des principes les plus essentiels de l'éthique consiste à avoir toujours l'air de ne rien faire. Bref, nous descendîmes au bar et nous prîmes un whisky soda. Cohn regardait les bouteilles sur leurs étagères tout autour de la salle. « C'est un bon endroit, » dit-il. « Ce n'est pas l'alcool qui manque, » approuvai-je. « Écoute, Jack. » Il se pencha sur le comptoir. « Est-ce que tu n'as jamais la sensation que toute ta vie s'écoule et que tu n'en profites pas ? Est-ce que tu te rends compte que tu as déjà vécu à peu près autant qu'il te reste à vivre ? Oui, de temps à autre. Sais-tu que dans 35 ans environ, nous serons morts ? Qu'est-ce que ça peut bien foutre, Robert ? Qu'est-ce que ça peut bien foutre ? Je parle sérieusement. C'est une chose qui ne me préoccupe guère, dis-je. Ça devrait. Je me suis fait assez de bile autrefois, maintenant c'est fini. Je ne m'en fais plus. Enfin, je veux aller en Amérique du Sud. Écoute, Robert, changer de pays, ça ne sert à rien. J'ai essayé tout ça. C'est pas parce que tu iras d'un endroit dans un autre que tu échapperas à toi-même. Ça ne donne aucun résultat. Mais tu n'as jamais été en Amérique du Sud. Oh, diable, ton Amérique du Sud. Si tu y allais dans l'état d'esprit où tu es à présent, ce serait exactement la même chose. On est très bien ici. Pourquoi ne vivrais-tu pas ta vie à Paris ? Oh, j'en ai marre de Paris, j'en ai marre du quartier. Évite le quartier, vadrouille un peu tout seul. Tu verras ce qui arrivera. Il ne m'arrive jamais rien. Une fois, je me suis promené seul toute la nuit, et il ne m'est rien arrivé, sauf un agent cycliste qui m'a arrêté pour me demander mes papiers. Et la ville n'était pas jolie la nuit ? Je n'aime pas Paris. Et voilà. J'avais pitié de lui, mais il n'y avait rien à faire. Parce que vous vous heurtiez tout de suite aux deux idées contre lesquelles il était buté. L'Amérique du Sud le guérirait et il n'aimait pas Paris. La première idée, il l'avait prise dans un livre et c'est dans un livre aussi probablement qu'il avait pris la seconde. Ah, dis-je, il faut que je remonte. J'ai quelques câbles à envoyer. Il faut vraiment que tu partes. Est-ce que ça t'embêterait que je monte m'asseoir dans ton bureau ? Mais non, viens. Il s'assit dans la pièce qui donnait sur la rue et se mit à lire les journaux. Le rédacteur, l'éditeur et moi travaillâmes assidûment pendant 2 heures. Ensuite, je tirai les différentes copies, ajoutai une signature, mis le tout dans 2 grandes enveloppes en papier de manille et sonnai le chasseur pour les lui faire porter à la gare Saint-Lazare. Je passai dans l'autre pièce et y trouvai Robert Cohn endormi dans le grand fauteuil. Il dormait la tête sur les bras. Cela me faisait de la peine de le réveiller. Mais je voulais fermer le bureau et décamper. Je posai ma main sur son épaule. Il secoua la tête. « Je ne peux pas le faire. » dit-il en enfonçant la tête plus profondément dans ses bras. « Je ne peux pas le faire. Rien ne pourra me le faire faire. »« Robert, » dis-je, en le secouant par l'épaule. Il leva les yeux, il sourit, cligna les yeux. « Est-ce que je parlais tout haut ?»« Oui, quelque chose. Ça n'était pas très clair. »« Bon Dieu, quel sale rêve !»« C'est la machine à écrire qui t'a endormi. »« Probablement. » Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Qu'as-tu donc fait ? Causer, dit-il. Je pouvais me l'imaginer. J'ai la sale habitude d'imaginer les scènes d'alcôve de mes amis. Nous allâmes prendre l'apéritif au café napolitain tout en regardant la foule de chaque soir sur le boulevard. La soirée de printemps était chaude et, après que Robert fut parti, je restai assis à une table, à la terrasse du Napolitain. Je regardais la nuit tomber, les annonces lumineuses s'allumer, les signaux de circulation rouges et verts, la foule des passants, les chevaux de fiacre trottant le long de la file serrée des taxis, et les poules qui, seules ou par deux, passaient en quête de leur repas du soir. J'observais une jolie fille qui passa devant ma table. Je la vis s'éloigner sur le boulevard et je la perdis de vue. J'en observai une autre. Et je vis la première qui revenait. Elle repassa encore une fois et nos regards se croisèrent. Alors il s'approcha et s'assit à ma table. Le garçon vint à nous. « Qu'est-ce que tu prends ?» dis-je. « Un perno d'eau. »« Ce n'est pas bon pour les petites filles. »« Petite fille toi-même. »« Dites garçon, un perno d'eau. »« Un perno d'eau pour moi aussi. » »« Alors, demanda-t-elle, tu vas faire la fête ?»« Naturellement, et toi ?»« Je sais pas. On ne sait jamais dans cette ville. » »« Tu n'aimes pas Paris ?»« Non. » Pourquoi ne vas-tu pas ailleurs? Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Eh bien, voilà ce que j'appelle être heureuse. Heureuse? Je t'en fous. Le Pernod est une imitation verdâtre d'absinthe. Quand on y ajoute de l'eau, la teinte en devient laiteuse. Ça a goût de réglisse, et ça vous donne un bon coup de fouet, mais la dépression qui suit n'en est que plus grande. Nous buvions assis, et la fille semblait maussade. Alors, dis-je, tu ne vas pas me payer à dîner ? Elle ébaucha un sourire, et je vis pourquoi elle se faisait un devoir de ne pas rire. Quand elle fermait la bouche, elle était plutôt jolie. Je payai les soucoupes et nous avançâmes vers la chaussée. Je hélai un fiacre et le cocher vint se ranger contre le trottoir. Bercé doucement dans le fond du fiacre qui s'en allait qu'à un cas, nous remontâmes l'avenue de l'Opéra, devant les portes fermées des magasins aux devantures éclairées. L'avenue large et luisante était presque déserte. Le fiacre passa devant les bureaux de New York Herald, dont l'aventure est pleine d'horloges. « À quoi servent toutes ces horloges ?» demanda-t-elle. « Elles indiquent l'heure dans les diverses parties de l'Amérique. »« Oh, essaie pas de me charrier !» Nous quittâmes l'avenue pour prendre la rue des Pyramides et traversant l'encombrement de la rue de Rivoli, nous pénétrâmes dans les Tuileries par une voûte sombre. Elle se blottit contre moi et je la pris par la taille. Elle me regardait, attendait un baiser. Elle avança la main et me toucha. Mais je repoussai sa main. « Pas ça !»« Pourquoi ? T'es malade ?» « Oui. Tout le monde est malade. Moi aussi, je suis malade. » Nous sortîmes des Tuileries dans la lumière. Nous traversâmes la Seine et nous montâmes la rue des Saints-Pères. « Tu ne devrais pas boire de Pernod si t'es malade. »« Toi non plus. »« Oh, moi, ça n'a pas d'importance. »« Ça n'a pas d'importance pour une femme. »« Comment t'appelles-tu ?»« Georgette. »« Et toi ?»« Jacob. » C'est un nom flamand. Américain aussi. Tu n'es pas flamand ? Non, américain. Tant mieux. Je déteste les flamands. Nous arrivions au restaurant. Je criai au cocher d'arrêter. Nous descendîmes. Et Georgette ne trouva pas que l'endroit avait bonne allure. Il n'a pas l'air de grand-chose, ce restaurant. Non, dis-je. Tu aimerais peut-être mieux aller chez Foyot. Pourquoi ne gardes-tu pas le sapin pour t'y faire conduire ? Je l'avais raccroché avec la vague idée sentimentale que ce serait agréable de manger avec quelqu'un. Il y avait bien longtemps que je n'avais mangé avec une poule, et j'avais oublié combien ça pouvait être embêtant. Nous entrâmes dans le restaurant, et passant devant Madame Lavigne à la caisse, nous nous installâmes dans une petite salle. Georgette se dérida un peu en mangeant. « Ce n'est pas mal ici, dit-elle. C'est pas très chic, mais la nourriture est convenable. »« Meilleur qu'à Liège. À Bruxelles, tu veux dire. » Nous prîmes une autre bouteille de vin, et Georgette lâcha une plaisanterie. Elle sourit, montra toutes ses mauvaises dents et nous trinquâmes. « T'as l'air d'un brave type, dit-elle. C'est dommage que tu sois malade. On s'entend bien tous les deux. Qu'est-ce que tu as au fait ?»« J'ai été blessé à la guerre. »« Oh, cette sale guerre !» Vraisemblablement, nous aurions continué, nous aurions discuté la guerre, convenant que c'était une vraie calamité pour la civilisation et qu'il aurait mieux valu l'éviter. Je ne m'amusais guère. Mais juste à ce moment, quelqu'un m'appela de la salle voisine. « Barnes ! Hé, Barnes ! Jacob Barnes !» « C'est un de mes amis qui m'appelle, expliquai-je. » Et je sortis. C'était Braddox, assis à une table, avec toute une bande, Cohn, Francis Klein, Mrs. Braddox, et plusieurs personnes que je ne connaissais pas. « Vous venez danser, hein ?» demanda Braddox. « Danser ?»« Mais oui, les dancing. Vous ne savez donc pas que nous les avons ressuscités ?» intervint Mrs. Braddox. « Il faut venir, Jack. Nous y allons tous, » dit Francis, du bout de la table. Elle était grande et souriait. « Mais naturellement, il viendra, » dit Braddox. « Venez prendre le café avec nous, Barnes. »« Entendu. »« Et amenez votre ami, » dit Mrs. Braddox en riant. Elle était canadienne et possédait cette aisance sociale si gracieuse des femmes de son pays. « Merci, nous venons, » dis-je. Je retournai dans la petite salle. « Qu'est-ce que c'est, tes amis ?» demanda Georgette. « Des écrivains et des artistes. »« Il y en a des tas de ce côté de l'eau. »« Trop. » »« Je trouve aussi. » Pourtant, il y en a qui gagnent de l'argent. Oh oui. Nous achevâmes de boire et de manger. « Allons, dis-je. Allons prendre le café avec les autres. » Georgette ouvrit son sac à main, fit quelques passes sur sa figure, tout en se regardant dans une petite glace, rectifia ses lèvres avec du rouge et redressa son chapeau. « Voilà, dit-elle. » Nous entrâmes dans la salle pleine de monde, et Bladox et les hommes à sa table se levèrent. « Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, mademoiselle Georgette Leblanc, dis-je. » Georgette montra son merveilleux sourire et tout le monde se serrait la main. « Êtes-vous parente de Georgette Leblanc, la cantatrice ?» demanda Mrs. Bladox. « Connais pas, » répondit Georgette. « Mais pourtant, vous portez le même nom, » insista cordialement Mrs. Bladox. « Non, dit Georgette, pas du tout, je m'appelle Robin. » « Mais, Monsieur Barnes, vous a présenté comme mademoiselle Georgette Leblanc. J'en suis tout à fait sûr, » insista Mrs. Bradox, qui, tout excitée de parler français, pouvait fort bien avoir aucune idée de ce qu'elle disait. « C'est un idiot, » dit Georgette. « Oh, je vois, c'était une plaisanterie, » dit Mrs. Bradox. « Oui, » dit Georgette. « Faut rire. » « Henri, vous avez entendu ?» cria Mrs. Bradox à son mari à l'autre bout de la table. « Mr. Barnes a présenté sa fiancée sous le nom de Georgette Leblanc, alors qu'en réalité, elle s'appelle Aubin. » « Mais naturellement, ma chère, mademoiselle Aubin, il y a un temps infini que je la connais. »« Oh, mademoiselle Aubin !» cria Francis Klein, qui parlait français très vite, sans paraître aussi fier ni aussi étonné que Mrs. Bradox en constatant que c'était vraiment du français. « Il y a longtemps que vous êtes à Paris. Vous vous y plaisez? Vous adorez Paris, n'est-ce pas ?»« Qui c'est-il, celle-là » dit Georgette en se tournant vers moi. « Faut-il que je lui parle ?» Elle se retourna vers Francis, qui, assise, souriante, les mains croisées, la tête penchée sur son long cou, fronçait les lèvres, toute prête à reprendre la parole. « Non, je n'aime pas Paris. » C'est cher et sale. Vraiment? Moi, je trouve que c'est extraordinairement propre. Une des villes d'Europe les plus propres. Moi, je trouve que c'est sale. Comme c'est curieux. Mais il n'y a peut-être pas très longtemps que vous êtes ici. Bien assez longtemps. Mais on y trouve des gens très gentils. Vous ne pouvez pas le nier. Georgette se tourna vers moi. Ils sont gentils, tes amis. Francis était un peu ivre et aurait voulu continuer, mais le café arriva. Et la vigne avec les liqueurs. Après quoi, tout le monde sortit pour se rendre au dancing des Bradox. Le dancing était un bal musette de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. 5 nuits par semaine, la classe ouvrière du quartier du Panthéon allait y danser. 1 nuit par semaine, c'était un club de danse. Le lundi soir, l'établissement était fermé. Quand nous arrivâmes, il n'y avait presque personne, sauf le sergent de ville, assis près de la porte, la femme du propriétaire derrière le zinc et le propriétaire lui-même. Leur fille descendait l'escalier comme nous arrivions. Il y avait de longues banquettes et des tables traversaient la salle. Tout au bout se trouvait le parquet de danse. « Les gens devraient bien arriver plus tôt, » dit Mrs. Bradox. La fille des patrons s'approcha et s'enquit de ce que nous voulions boire. Le patron se hissa sur un grand tabouret et se mit à jouer de l'accordéon. Il avait un chapelet de grelots autour d'une cheville, et tout en jouant, il battait la mesure avec son pied. Tout le monde se mit à danser. Il faisait chaud. Et la danse finie, nous étions tous en nage. « Bon Dieu, » dit Georgette, « vous parlez d'une boîte pour suer. » « Il fait chaud. »« Chaud, bon Dieu. Enlève ton chapeau. » « C'est une bonne idée. » Quelqu'un invita Georgette à danser et j'allais au bar. Il faisait vraiment très chaud, et dans la nuit chaude, la musique de l'accordéon était agréable. Je bus un bock debout sur le seuil dans la brise fraîche de la rue. 2 taxis descendaient la rue en pente. Ils s'arrêtèrent devant le bal. Il en sortit un groupe de jeunes gens, les uns en chandail, les autres en bras de chemise. Dans la lumière de la porte, je pouvais distinguer leurs mains, leurs chevelures ondulées et fraîchement lavées. L'agent debout à la porte me regarda et sourit. Ils entrèrent. Comme ils entraient dans la lumière, je vis des mains blanches, des cheveux ondulés, des visages blancs, tout cela grimaçant, gesticulant, papotant. Brett était avec eux. Elle était charmante et semblait à son aise dans ce milieu. L'un d'eux aperçut Georgette et dit « Ma parole, voilà une vraie grue, je vais danser avec elle, Lette, tu vas voir. » Le grand brun qui s'appelait Lette dit « Voyons, ne fais pas de folie. » Le blond ondulé répondit « « Ne t'inquiète donc pas, ma chère. » Et c'est avec ça qu'était Brett. J'étais furieux. Du reste, les hommes de cette espèce me mettaient toujours en fureur. Je sais bien qu'on les dit très amusants et qu'il faut être tolérant. Mais j'aurais aimé tomber sur l'un d'eux, n'importe lequel, rien que pour secouer ses airs supérieurs et cette pose des affectations. Au lieu de cela, je descendis la rue et pris un autre boc au bar du bal voisin. La bière n'était pas bonne, et je bus un cognac encore plus mauvais pour m'en faire passer le goût. Quand je revins au bal, il y avait foule, et Georgette dansait avec le grand blond. Les yeux au ciel et la tête de côté, il dansait en trémoussant ses hanches lourdes. Dès que la musique s'arrêta, un autre du même groupe vint inviter Georgette à danser. Il s'en était emparé. Je savais qu'ils danseraient tous avec elle. Ils sont tous comme ça. Je m'assis à une table. Cohn s'y trouvait. Francis Dunster. Mrs. Braddock amena quelqu'un qu'elle présenta sous le nom de Robert Prentice. Il était de New York en passant par Chicago, et en était à ses débuts de romancier. Il avait une espèce d'accent anglais. Je lui proposai de prendre une consommation. « Merci beaucoup, dit-il. Je viens juste d'en finir une. Prenez-en une autre. »« Je veux bien, merci. » Nous appelâmes la fille des patrons et nous prîmes chacun une fine à l'eau. « Vous êtes de Kansas City, m'a-t-on dit. »«
Oui. »«
Trouvez-vous Paris amusant ?»«
Oui. »«
Vraiment ?» J'étais un peu ivre. Pas absolument ivre, mais juste assez pour ne plus contrôler mes actions. « Mais oui, nom de Dieu, dis-je. Pas vous ?»«
Oh, quelle façon charmante de se mettre en colère, dit-il. Comme je voudrais avoir ce talent. »
Je me levai et me dirigeai vers les danseurs. Mrs. Braddock me suivit. « Il ne faut pas vous fâcher contre Robert, dit-elle. Ce n'est encore qu'un enfant, vous savez. »«
Je n'étais pas fâché, dis-je. Seulement j'ai cru un moment que j'allais vomir. »«
Votre fiancé a beaucoup de succès. » Mrs. Braddock regardait parmi les danseurs Georgette au bras du grand brun, appelé Lette. « N'est-ce pas ?» dis-je.
« Plutôt, » dit Mrs. Braddock.
Cohn s'approcha. « Jack, » dit-il, « viens prendre un verre au bar. » Nous y allâmes.
« Qu'est-ce que tu as ?»«
Tu as l'air tout bouleversé. »«
Rien. »«
Tout ça me donne mal au cœur, voilà tout. »
Brett s'approcha du bar.
« Hello, les copains. »«
Hello, Brett, » dis-je.
« Pas encore ivre ?»«
Comment ça ?»«
Je ne serai plus jamais ivre. »
Alors, on n'offre pas un brandy soda à une copine.
Elle resta debout le verre à la main et je vis que Robert Cohn la regardait. C'est ainsi que son compatriote devait regarder quand il vit la terre promise. Cohn, naturellement, était beaucoup plus jeune, mais il avait ce même regard avide d'attente méritoire.
Brett était sacrément belle. Elle portait un pull-over en tricot, une jupe de tweed et les cheveux rejetés en arrière à la garçonne. Elle lançait ses modes. Elle n'était faite que de courbes, comme la coque d'un yacht de course. Et ce jersey de laine n'en laissait ignorer aucune.
« Tu es en belle compagnie, Brett, » dis-je.
« N'est-ce pas qu'ils sont charmants ?»«
Et toi, mon cher, où l'as-tu ramassé ?»«
Au Napolitain. »«
Et la soirée a été agréable ?»«
Oh, inestimable, » dis-je.
Brett se mit à rire.
« C'est mal de ta part, Jack. C'est une insulte à nous tous. Regarde Francis, là, et Joe. »
Cela pour que Cohn en fît son profit.
« Ça gâte le métier, » dit Brett.
Et elle se remit à rire.
« Tu es dans un merveilleux état de sobriété, » dis-je.
« Oui, n'est-ce pas ? Et note bien que quand on se trouve avec des types comme ça, on peut boire en toute sécurité. »
La musique reprit et Robert Cohn dit « Voulez-vous m'accorder cette danse, Lady Brett ?»
Brett lui sourit. « J'ai promis celle-ci à Jacob. »
Elle rit. « Tu as un nom sacrément biblique, Jack. »
« Alors, la suivante ?» demanda Cole. « Nous partons, » dit Brett. « Nous avons un rendez-vous à Montmartre. » Tout en dansant, je regardais par-dessus l'épaule de Brett et je voyais Cohn debout au bar qui ne la quittait pas des yeux.
« Tu as fait un nouveau béguin, » dis-je.
« Ne m'en parle pas, le pauvre type. » Je ne m'en étais pas aperçu jusqu'à maintenant.
« Oh, dis-je. J'imagine que tu aimes aller collectionner. Dis donc pas de bêtises, si ça te plaît. »«
Eh bien, et après ?»«
Rien, » dis-je.
Nous dansions au son de l'accordéon et quelqu'un jouait du banjo. Il faisait très chaud. Je me sentais heureux. Nous passâmes tout près de Georgette qui dansait avec l'un d'eux.
« Qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici ?»«
Je sais pas. Je l'ai amené, tout simplement. »«
Tu deviens sacrément romantique. »«
Non, je m'embête. »«
En ce moment ?»«
Non, pas en ce moment. »« Allons-nous-en. Elle ne manquera pas de gens pour s'occuper d'elle. »«
Tu veux vraiment ?»«
Est-ce que je te le demanderais si je ne voulais pas ?»
Nous cessâmes de danser.
Je pris mon par-dessus à une patère contre le mur et je l'enfilai. Brett était debout près du bar. Cohn lui parlait. Je m'arrêtai au bar et demandai une enveloppe. La patronne en trouva une. Je sortis un billet de 50 francs de ma poche. Je le glissai dans l'enveloppe, la fermai et la donnai à la patronne.
« Si la personne avec qui je suis venu me demande, dis-je, veuillez lui donner ceci. Si elle part avec un de ces messieurs, gardez-le pour moi. »«
C'est entendu, monsieur, » dit la patronne.
« Vous partez déjà, si tôt ?»«
Oui, » dis-je. Nous nous dirigeâmes vers la porte. Cohn parlait toujours à Brett. Il lui souhaita le bonsoir et prit mon bras.
« Bonne nuit, Cohn, » dis-je.
Dans la rue, nous cherchâmes un taxi.
« Tu vas perdre tes 50 francs, » dit Brett.
« Oh oui. » « Pas de taxi. Nous pouvons aller à pied jusqu'au Panthéon, nous en trouverons un là-bas. »
Viens prendre quelque chose au bistrot à côté. Nous en enverrons chercher un. Tu ne traverserais pas la rue ? Pas si je peux l'éviter. Nous entrâmes dans le bar voisin et j'envoyai un garçon chercher un taxi. Enfin, dis-je, nous voilà loin d'eux. Nous restions là, debout, devant le grand comptoir en zinc, sans nous parler, sans nous regarder. Le garçon revint et nous dit que le taxi était à la porte. Brett me serra violemment la main. Je donnai un franc au garçon et nous sortîmes. Où veux-tu que je lui dise d'aller ? Demandai-je. Oh, dis-lui d'aller à l'aventure, comme ça, n'importe où. Je dis au chauffeur d'aller au parc Montsouris. Je montai, fis claquer la portière. Brett, les yeux fermés, était blotti dans le coin. Je m'assis près d'elle. Le taxi démarra avec une secousse. Oh, mon chéri, j'ai été si malheureuse, dit Brett. Le taxi monta la rue, traversa la place éclairée, s'enfonça dans le noir, montant toujours. Puis il déboucha dans une rue sombre, en terrain plat, derrière Saint-Étienne-du-Mont. Roula mollement sur l'asphalte, passa devant les arbres et la station d'autobus de la place de la Contrescarpe, et tourna sur les cailloux de la rue Mouffetard. De chaque côté de la rue, il y avait des bars éclairés et des boutiques encore ouvertes. Nous étions assis, loin l'un de l'autre, et les cahots nous rapprochaient tandis que nous descendions la vieille rue. Brett avait enlevé son chapeau. Elle renversait la tête. Dans la lumière des boutiques ouvertes, je pouvais voir son visage. Puis l'obscurité revint. Mais quand nous débouchâmes dans l'avenue des Gobelins, je pus voir de nouveau son visage. La rue était défoncée et des hommes travaillaient au rail du tramway à la lueur des lampes à acétylène. Le visage de Brett était blanc et la ligne svelte de son cou brilla dans la lueur vive de l'acétylène. La rue redevint noire et je l'embrassai. Nos lèvres se joignirent étroitement. Puis elle se détourna et se rencogna aussi loin qu'elle put sur la banquette. Elle baissait la tête. « Ne me touche pas, » dit-elle. « Je t'en prie, ne me touche pas. »« Qu'as-tu ? » ?»« Cela m'est insupportable. »« Oh, Brett. » »« Il ne faut pas. »« Il vaut mieux que tu le saches. »« Cela m'est insupportable, voilà tout. » Oh, mon cher, tâche de comprendre. Tu ne m'aimes donc pas ? T'aimer ? Mais je me désagrège tout bonnement dès que tu me touches. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à faire ? Elle s'était redressée. J'avais passé mon bras derrière elle et elle était appuyée contre moi. Et nous étions très calmes. Elle me regardait dans les yeux, avec cette manière à elle de regarder qui vous faisait douter si elle voyait vraiment avec ses propres yeux. Et ses yeux continueraient à regarder après que tous les yeux du monde auraient cessé de regarder. Elle regardait comme s'il n'y avait rien au monde qu'elle n'eût osé regarder comme ça. Et, en réalité, elle avait peur de tant de choses. Est-ce que nous ne pouvons vraiment rien ? Dis-je. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je ne veux pas repasser par cet enfer. »« Alors, il vaudrait mieux ne plus se revoir. »« Mais mon chéri, j'ai besoin de te voir. »« Il n'y a pas que ça, tu le sais bien. »« C'est vrai, mais ça finit toujours par là. »« C'est de ma faute. »« Est-ce qu'il ne faut pas toujours payer pour tout ce qu'on a fait ?» Elle n'avait pas cessé de me regarder dans les yeux. Ses yeux avaient des profondeurs différentes. Parfois, ils semblaient parfaitement plats. Pour le moment, je pouvais y plonger jusqu'au fond. Quand je pense à tous les pauvres garçons que j'ai fait souffrir, c'est pour cela que je paie maintenant. Ne dis donc pas de bêtises, dis-je. Du reste, ce qui m'est arrivé est supposé être très drôle. Je n'y pense jamais. Oh non! Je me le figure. Tiens, mieux vaut ne pas en parler. Moi aussi, j'en ai ri un jour. Elle ne me regardait pas. Un ami de mon frère est revenu de Mons dans le même état. Ça avait l'air d'une sacrée bonne blague. Les hommes, ça ne sait donc jamais rien ? Non, dis-je, personne ne sait jamais rien. J'avais à peu près épuisé le sujet. À un certain moment, je l'avais probablement considéré sous ses aspects les plus variés, y compris le fait que certaines blessures et imperfections sont prétexte à plaisanterie, alors qu'elles restent plutôt sérieuses pour ceux qui en sont affligés. C'est drôle, dis-je, c'est très drôle. Et c'est très drôle également d'être amoureux. Tu crois, vraiment ? De nouveau, ses yeux semblaient plats. Je ne dis pas drôle dans ce sens-là. D'un côté, c'est une sensation agréable. Non, dit-elle, je trouve que c'est l'enfer sur terre. C'est bon de se revoir. Non, je ne trouve pas. Tu n'en as pas envie ? J'y suis forcé. Nous étions assis maintenant comme deux étrangers. Le parc Montsouris se trouvait à notre droite. Le restaurant où il y a le vivier avec des truites vivantes et où on peut s'asseoir et regarder le parc était fermé et noir. Le chauffeur se pencha, la tête tournée vers nous. « Où veux-tu aller ?» demandai-je. Brett détourna la tête. « Off, allons au Select. »« Au café Select, » dis-je au chauffeur, « boulevard Montparnasse. » Nous redescendîmes tout droit et contournâmes le Lion de Belfort qui regarde passer les tramways de Montrouge. Brett regardait droit devant elle. Sur le boulevard Raspail, en vue des lumières de Montparnasse, Brett dit « Est-ce que ça t'ennuierait beaucoup si je te demandais quelque chose ?»« Que tu es sotte. Alors, embrasse-moi encore une fois avant d'arriver. » Quand le taxi s'arrêta, je descendis et payai. Brett en sortit en mettant son chapeau. Elle me donna la main pour descendre. Sa main tremblait. Dis, je ne fais pas trop peur. Elle enfonça son feutre d'homme et se dirigea vers le bar. À l'intérieur, devant le bar et autour des tables, se trouvaient presque tous les gens que nous avions laissés au dancing. Hello, les copains, dit Brett. Je vais prendre quelque chose. Oh, Brett, Brett! Le petit portraitiste grec, qui s'intitulait Duc et que tout le monde appelait Zizi, a couru vers elle. « J'ai quelque chose de beau à vous dire. »« Hello, Zizi, » dit Brett. « Je veux vous présenter un ami, » dit Zizi. Un gros homme approchait. « Comte Mipipopoulos, je vous présente mon ami, Lady Ashley. »« Comment allez-vous, » dit Brett. « Alors, madame se plaît-elle à Paris ?» demanda le comte Mipipopoulos, qui portait une dent d'élan à sa chaîne de montre. « Oui, assez, » dit Brett. Paris est certainement une belle ville, dit le comte, mais je pense qu'à Londres, vous devez avoir aussi bien des choses à faire. Oh oui, dit Brett, énormément. Braddock m'appela de la table où il était assis. Barnes, dit-il, venez prendre un verre. La petite que vous avez amenée a fait un scandale épouvantable. À propos de quoi? Quelque chose que la fille de la patronne lui a dit, un raffut. C'était marrant. Elle a du reste été épatante, vous savez. Elle a montré sa carte jaune et elle a demandé à voir celle de la fille de la patronne. Vous parlez d'un raffut. Et comment ça s'est-il terminé? Oh, quelqu'un l'a ramenée chez elle. Elle était assez jolie fille et une maîtrise admirable de la langue. Mais restez donc prendre quelque chose. Non, dis-je. Il faut que je file. Avez-vous vu Cohn? Il est rentré avec Francis, plaça Mrs. Braddock. Le pauvre type. Il a l'air bien bas, dit Braddock. « Ça, on peut le dire, » dit Mrs. Braddock. « Il faut que je file, » dis-je. « Bonsoir. » Je dis bonsoir à Brett au bar. Le comte payait le champagne. « Voulez-vous prendre une coupe avec nous, monsieur » demanda-t-il. « Non, merci, mille fois, il est temps que je parte. »« Sérieusement ?» demanda Brett. « Oui, » dis-je. « J'ai une migraine atroce. »« Je te verrai demain. »« Viens au bureau, jamais de la vie. »« Alors, où te verrai-je »« N'importe où, vers 5 heures. » « Sur l'autre rive, alors. Bon, je serai au crayon à 5 heures. »« Tâche d'y être, » dis-je. « T'en fais pas, » dit Brett. « Je ne t'ai jamais posé un lapin, que je sache. »« Tu as des nouvelles de Mike ?»« Une lettre, aujourd'hui. »« Bonne nuit, monsieur, » dit le comte. Je sortis sur le trottoir et descendis vers le boulevard Saint-Michel. Je longeai les tables de la rotonde encore bondée et je regardais de l'autre côté du boulevard le dôme dont les tables s'alignaient jusqu'au bord du trottoir. Quelqu'un me fit signe d'une des tables. Je ne pus voir qui c'était, je passai outre. Il me tardait d'être chez moi. Le boulevard Montparnasse était désert. Chez Lavigne, tout était hermétiquement clos. Et on empilait les tables devant la closerie des lilas. Je passai devant la statue de Ney, debout, sous la lumière des lampes à arc, parmi les marronniers aux feuilles naissantes. Une couronne violette fanée était appuyée au piédestal. Je m'arrêtai pour en lire l'inscription. Les groupes bonapartistes... Une date. J'ai oublié. Il avait l'air très distingué avec ses bottes, le maréchal Ney, brandissant son épée parmi la jeune verdure des feuilles de marronnier. Mon appartement était juste en face, en descendant légèrement le boulevard Saint-Michel. Peut-être allais-je pouvoir m'endormir. Ma tête se mit à travailler. Cette même vieille histoire, toujours. Oui, c'était une sale façon d'être blessé. Et en escadrille, sur un front d'opérette comme le front italien. À l'hôpital italien, nous avions pensé fonder une société. Elle avait un drôle de nom en italien. Je me demande ce que sont devenus les autres, les Italiens. C'était l'Ospedale Maggiore, à Milan. Padiglione Ponte. Le bâtiment à côté était le Padiglione Zonda. Il y avait une statue de Ponte. À moins que ce ne fût de Zonda. C'est là où le colonel de liaison vint me voir. Ce fut comique. Ce fut, je crois bien, le premier incident comique. J'étais couvert de bandages, mais on l'avait mis au courant. Alors, il a fait un discours magnifique. Vous, un étranger, un Anglais, tous les étrangers étaient des Anglais pour eux. Vous avez donné plus que votre vie. Quel discours. J'aimerais l'avoir orné d'enluminure pour le pendre dans mon bureau. Il ne sourit pas une minute. Il se mettait à ma place, je suppose. Che mala fortuna, che mala fortuna. Je ne me rendais pas tellement compte, je crois. Je faisais de mon mieux pour jouer la comédie et n'ennuyer personne, et vraisemblablement, je n'aurais jamais souffert si je n'avais pas rencontré Brett lors de mon évacuation en Angleterre. J'imagine qu'elle ne désirait que ce qu'elle ne pouvait avoir. Oui, il y a des gens comme ça. Oh, au diable les gens. L'Église catholique avait un rudement bon moyen de régler tout ça. Bon conseil, en tout cas, n'y pas penser. Non, oui, un conseil épatant seulement, essayez de le suivre. Essayez un peu. Étendu, ne pouvant dormir, je pensais, et mon cerveau sautait d'une idée à l'autre. Puis je finis par ne plus pouvoir en détacher mon esprit. Je me mis à penser à Brett, et tout le reste disparut. Je pensais à Brett, et mon cerveau, cessant de travailler par bon, se mit à fonctionner, si j'ose dire, par ondes paisibles. Et soudain, je me mis à pleurer. Puis, au bout d'un moment, je me sentis soulagé. Étendu dans mon lit, j'entendais les tramways pesants monter et descendre sur le boulevard. Je finis par m'endormir. Je m'éveillai. On se disputait dans la rue. J'écoutais et je crus reconnaître une voix. J'enfilai ma robe de chambre et allai à la porte. La concierge parlait en bas. Elle était fort en colère. J'entendis mon nom et j'appelai du haut de l'escalier. « C'est vous, monsieur Barnes ?» cria la concierge. « Oui, c'est moi. » « Il y a une espèce de femme ici qui a réveillé toute la rue. Comme si c'est une heure pour venir faire des histoires pareilles. Elle dit qu'elle veut vous voir. Je lui dis que vous dormiez. » Alors j'entendis la voix de Brett. Dans mon demi-sommeil, j'avais cru que c'était Georgette. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne pouvait pas savoir mon adresse. « Laissez-la monter, je vous prie. » Brett monta l'escalier. Je vis qu'elle était très ivre. « C'est idiot des choses comme ça, dit-elle. Un potin du diable. Dis, tu ne dormais pas. Qu'est-ce que tu crois donc que je faisais ?» « Je sais pas. Quelle heure est-il ?» Je regardais la pendule, elle était 4h30. « Je n'avais aucune idée de l'heure, dit Brett. Alors, on peut s'asseoir ? Ne sois pas fâché, bon chéri. Je viens juste de laisser le compte. Il m'a amené ici. »« Quel genre de type est-ce ? » Je sortais l'eau de ville, soda et les verres. « Un tout petit peu, dit Brett. N'essaie pas de me saouler. Le compte ? Oh, pas mal. Il va bien de pair avec nous. » Est-il vraiment comte ? À ta santé, je crois que oui. En tout cas, il mérite de l'être. Il connaît des tas de choses sur les gens. Je ne sais pas comment il sait tout ça. Il a une chaîne de confiserie aux États-Unis. Elle sirotait sa boisson. Je crois bien que ça s'appelle une chaîne, quelque chose comme ça, tout enchaîné les unes aux autres. M'en a dit quelques mots, sacrément intéressant. Bien un type de notre monde, pourtant. Oh, tout à fait, aucun doute. C'est facile à voir. Elle but une gorgée. Mais qu'est-ce qui me prend de raconter tout ça ? Ça ne te fait rien, dit. Il entretient Zizi, tu sais. Est-ce que Zizi aussi est réellement duc ? Ça ne m'étonnerait pas. Grec, tu sais. Bon. Très moche, sa peinture. Le comte m'a assez plu. Où as-tu été avec lui ? Oh, partout. Il vient juste de me ramener ici. M'a offert 10 000 dollars pour aller avec lui à Biarritz. Combien ça fait-il de livres ? Bon, environ 2 000. Une belle somme. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, il a pris ça très bien. Je lui dis que je connaissais trop de monde à Biarritz. Brett se mit à rire. Ma parole, il t'en faut du temps pour lever le coude, dit-elle. J'avais à peine touché à mon brandy soda, je bus un long trait. À la bonne heure. Très drôle, dit Brett. Ensuite, il voulait que je l'accompagne à Cannes. Je lui dis que je connaissais trop de monde à Cannes. Monte Carlo, connaissait trop de monde à Monte Carlo. Je lui dis que je connaissais trop de monde partout. C'est vrai, du reste. Aussi, je lui ai demandé de me ramener ici. Elle me regarda, une main sur la table, le verre en l'air. Fais pas cette figure-là, dit-elle. Je lui ai dit que j'étais amoureuse de toi. Vrai, du reste. Fais donc pas cette figure. Il a pris ça bougrement bien. Il veut nous emmener dîner ensemble demain soir, ça te va? Pourquoi pas? Ah, maintenant je ferais mieux de partir. Pourquoi? Je voulais te voir seulement. Une idée idiote. Tu veux t'habiller et descendre? Il a sa voiture là, en haut de la rue. Le comte? En personne. Et un chauffeur en livrée. Il va m'emmener prendre le petit déjeuner au bois. Panier. Tout pris chez Zélie. Une demi-douzaine de bouteilles de boum, ça te tente? J'ai à travailler ce matin, dis-je. Et puis vous avez trop d'avance sur moi pour que je puisse vous rattraper et être amusant. Que tu es bête. Impossible. Bon. Veux-tu que je lui transmette quelques messages affectueux? Tout ce que tu voudras. Absolument. Bonne nuit, mon chéri. Pas de sentimentalité. Oh, tu me dégoûtes. Je l'embrassai et Brett frissonna. Je ferais mieux de partir, dit-elle. Bonne nuit, mon chéri. Tu n'es pas obligé de partir. Si. Nous nous embrassâmes de nouveau dans l'escalier et quand je demandai le cordon, la concierge grommela quelque chose derrière sa porte. Je remontai et par la fenêtre ouverte, je regardais Brett qui se dirigeait vers une grosse limousine arrêtée contre le trottoir sous la lampe à arc. Elle y monta et l'auto-démarra. Je me retournai. Sur la table, il y avait un verre vide et un verre de brandy soda demi-plein. Je les portais tous les deux dans la cuisine et vidai le verre mi-plein dans l'évier. J'éteignis le gaz dans la salle à manger. Je m'assis sur mon lit et d'un coup de pied, me débarrassai de mes pantoufles. Puis je me couchai. C'était là cette Brett pour qui j'avais pleuré. Et je me la représentais remontant la rue, montant dans l'auto, telle que je venais de la voir et naturellement, je ne tardais pas à me sentir repris d'un cafard de tous les diables. Pendant le jour, il n'y a rien de plus facile que de poser au tipi s'en fout, mais la nuit, c'est une autre affaire. Ce matin-là, je descendis le boulevard jusqu'à la rue Soufflot pour prendre un café et des brioches. Il faisait très beau. Les baronniers du Luxembourg étaient en fleurs. On ressentait cette agréable impression que procure de bonheur le début d'un jour très chaud. Je lus les journaux en prenant mon café, puis je fumai une cigarette. Les marchandes de fleurs arrivaient du marché et installaient leurs éventaires. Des étudiants montaient vers la faculté de droit ou descendaient vers la Sorbonne. Le boulevard fourmillait de tramways et de gens allant à leur travail. Je pris un S et gagnai la Madeleine debout sur la plateforme arrière. De la Madeleine, je me rendis à mon bureau par le boulevard des Capucines et l'Opéra. Je passai devant le marchand de grenouilles sauteuses et devant le marchand de petits boxeurs. Je m'écartai pour ne pas marcher sur le fil avec lequel la jeune comparse actionnait les boxeurs. Elle était debout, les yeux dans le vague, le fil dans ses mains croisées. Le camelot insistait auprès de deux touristes. Trois autres touristes s'étaient arrêtés et regardaient. Je marchais derrière un homme qui, au moyen d'un rouleau qu'il poussait, écrivait sur le trottoir en lettres humides, sans anneaux. De tous côtés, des gens se rendaient à leur travail. C'était agréable d'aller travailler. Je traversai le boulevard et arrivai à mon bureau. Dans mon bureau, je lus les journaux français du matin, je fumai, m'assis à ma machine et abattis une bonne matinée de travail. À 11h, j'allais au Quai d'Orsay en taxi. J'entrai et pris place au milieu d'une demi-douzaine de correspondants. Et pendant une demi-heure, le porte-parole des affaires étrangères, un jeune diplomate de la Nouvelle Revue Française à lunettes d'écaille, parla et répondit aux questions qu'on lui posait. Le président du Conseil était à Lyon à faire un discours, ou plutôt il était sur le chemin du retour. Beaucoup de gens posèrent des questions pour le plaisir de s'entendre parler, et deux ou trois questions furent posées par des reporters qui désiraient en connaître les réponses. Il n'y avait pas de nouvelles. En quittant le Quai d'Orsay, je partageai un taxi avec Woolsey et Krum. « Que faites-vous le soir, Jack ?» demanda Krum. « Je ne vous vois jamais. »« Oh, j'habite le quartier latin. »« J'irai un de ces soirs, le dingo. » »« Et pas tant, n'est-ce pas ?»« Oui, ça. Ou bien la nouvelle boîte, le select. »« J'ai souvent pensé aller au quartier, » dit Krum. « Mais vous savez ce que c'est avec une femme et des gosses. »« Vous avez fait du tennis ?» demanda Woolsey. « Mon Dieu, non, » dit Krum. « Je ne peux pas dire que j'ai joué cette année. »« J'ai bien essayé de m'échapper le dimanche, mais il a plus tout le temps et les courtes sont si encombrées. » « Les Anglais sont toujours libres le samedi, » dit Woolsey. « Sacré vénard, » dit Krum. « Enfin, écoutez bien ce que je vous dis. Un jour, je cesserai de travailler pour une agence, et alors, j'aurai tout le temps que je voudrais pour aller à la campagne. » Il n'y a que cela de vrai, habiter à la campagne et avoir une petite auto. J'ai vaguement l'intention d'acheter une auto l'année prochaine. Je frappai sur la vitre. Le chauffeur arrêta. « Voilà ma rue, dis-je. Entrez donc prendre quelque chose. Merci, mon vieux Décroum. » Wolsey secoua la tête. « Il faut que je mette au fichier le topo qu'il nous a sorti ce matin. » Je glissai une pièce de 2 francs dans la main de Krum. « Vous êtes fou, Jack, dit-il, c'est moi qui paye. Ça passera dans les frais de bureau de toute façon. Non, non, je tiens à ce que ce soit moi. » Je leur dis adieu de la main. Krum passa sa tête par la portière. « À mercredi, pour déjeuner. Entendu. » Je montai à mon bureau par l'ascenseur. Robert Cohn m'attendait. « Hello, Jack, dit-il. Tu vas déjeuner ? Oui. Laisse-moi d'abord voir s'il y a quelque chose de nouveau. Où va-t-on manger ? N'importe où. » Je parcourais du regard ma table de travail. « Où veux-tu manger ? Si on allait au Wetzel, les hors d'œuvre y sont très bons. » Dans le restaurant, nous commandâmes des hors d'œuvre et de la bière. Le sommelier apporta la bière froide dans de grandes chopes perlées de buée. Il y avait une demi-douzaine de hors d'œuvre différents. « Tu t'es amusé hier soir ? Dis-je. « Pas trop, non. Et ton bouquin, ça va ? Pas du tout. Je ne peux pas arriver à mettre ce second livre en train. Ça arrive à tout le monde. Oh, ça, j'en suis sûr, mais ça m'embête tout de même. Tu as repensé à ce projet d'aller en Amérique ? C'est sérieux. Alors pourquoi ne pars-tu pas ? Francis. Eh bien, dis, j'emmène là. Elle n'aimerait pas ça. C'est pas le genre de choses qu'elle aime. Elle aime avoir un tas de gens autour d'elle. On va la faire foutre. Je ne peux pas. J'ai des obligations envers elle. Il repoussa la salade de concombre et prit des harengs marinés. « Qu'est-ce que tu sais de Lady Brett Ashley, Jack ?»« Elle s'appelle Lady Ashley. »« Brett, c'est son nom à elle, elle est gentille. »« Elle est en instance de divorce, elle va épouser Mike Campbell. »« Il est en Écosse en ce moment, pourquoi ?»« Elle a un charme extraordinaire. »« N'est-ce pas ?»« Il y a quelque chose en elle, une certaine distinction. » Elle a l'air d'être si foncièrement droite et loyale. Elle est très gentille. Je ne sais pas comment exprimer cette qualité, dit Cohn. Je suppose que c'est la race. Dis donc, elle n'a pas l'air de te déplaire. C'est vrai. Je ne serais pas étonné d'en être amoureux. Elle se saoule, dit. Elle aime Mike Campbell et elle va l'épouser. Il sera riche en diable un de ses jours. Je ne crois pas qu'elle l'épouse. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. Je ne le crois pas, voilà tout. Il y a longtemps que tu la connais ? Oui, dis-je. Elle était infirmière bénévole dans un hôpital où j'ai été soigné pendant la guerre. Ce devait être une gosse à cette époque-là. Elle a 34 ans. Quand a-t-elle épousé Ashley ? Pendant la guerre. Le type dont elle était vraiment éprise venait juste de claquer de la dysenterie. Tu m'as l'air plutôt amer. Pardon, c'était sans intention. Je tâchais de te mettre au courant des faits, tout simplement. Je ne crois pas qu'elle épouserait quelqu'un qu'elle n'aimerait pas, dis-je. Elle l'a bien déjà fait 2 fois. Je ne le crois pas. Alors, dis-je, ne me pose pas de questions saugrenues si tu n'aimes pas les réponses. Je ne t'ai pas demandé cela. Tu m'as demandé ce que je savais de Brett Ashley. Je ne te demandais pas de l'insulter. Oh, va te faire foutre. Il se leva de table, tout pâle, et il resta debout, pâle et furieux, derrière les raviers de Wardeur. « Rassieds-toi, dis-je, ne fais pas l'idiot. J'entends que tu retires ce que tu viens de dire. Oh, je t'en prie, pas de ces bodiments de collégiens. Retire ce que tu viens de dire. Mais oui, tout ce que tu voudras, je n'ai jamais entendu parler de Brett Ashley. Ça va, comme ça ? Non, pas ça. Ce que tu m'as dit à moi, t'allais me faire foutre. Oh, eh bien, ne va pas te faire foutre, dis-je. Reste ici. Nous commençons juste à déjeuner. » Cohn sourit et se rassit. Il parut heureux de s'asseoir. Que diable aurait-il fait s'il ne s'était pas assis ? Tu dis des choses tellement insultantes, Jack. Pardon, j'ai la parole un peu vive. Quand je dis des choses désagréables, je ne les pense jamais. Je le sais, dit Cohn. Au fond, tu es mon meilleur ami, Jack. Dieu te garde, pensais-je. Oublie ce que j'ai dit, dis-je tout haut, je te demande pardon. C'est fini, tout est arrangé. Ça n'a été qu'un mouvement de colère. Bon, si on commandait autre chose. Quand nous eûmes fini de déjeuner, nous montâmes prendre le café au Café de la Paix. Je sentais que Cohn voulait ramener la conversation sur Brett, mais je l'en empêchais. Nous parlâmes de choses et d'autres, et je le quittai pour retourner au bureau.
C'était « Lecture du soir ». Le soleil se lève aussi, lu par Michel Bouquet, première des 3 parties, diffusée la première fois le 30 septembre 1957 sur France 4 Haute Fidélité. À suivre, téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.